Chacun chez soi, au moins jusqu'au 11 mai, date à laquelle les écoles, les collèges et les lycées rouvriraient progressivement. Comment passer le temps confiné? Et si vous avez moins de 18 ans, comment préparer votre oral de français? Pendant 4 semaines, à l'heure de la grande table, France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale vous propose d'écouter dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains. Et de réviser, lire ou relire ces œuvres de notre patrimoine littéraire, commenter et recontextualiser. Après Le Rouge et le Noir de Stendhal lundi, Alcool de Guillaume Apollinaire hier, aujourd'hui, Enfance de Nathalie Sarraute, lue par la comédienne Irène Jacob.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Une entrée tardive en littérature pour celle qui fut d'abord avocate, mais une entrée remarquée. Nathalie Sarraute a 32 ans quand elle écrit les premières pages de Tropisme, publiées 7 ans plus tard, en 1939, au seuil de la guerre. Tropisme comme les transformations d'un organisme sous l'effet de son environnement. Tropisme comme ses mouvements indéfinissables, précise-t-elle dans son essai sur le roman « L'ère du soupçon », qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience et qui lui paraissent constituer la source secrète de notre existence. Nathalie Sarraute vient de dessiner les contours de son territoire littéraire. Elle l'arpentera de livre en livre. L'écrivaine s'intéresse aux sensations et aux non-dits qui planent sur nos échanges, s'immiscent dans nos discussions. Elle va tenter de mettre des mots sur l'inflexion d'une voix, un silence, une hésitation. Elle est sûre que c'est dans ces fêlures, ces micro-ruptures du propos que la vérité des êtres s'exprime. Ce qu'on éprouve comme ce que l'on refoule. La sous-conversation, comme elle la nomme, va devenir sa préoccupation majeure. Et c'est le rôle qu'elle s'assigne, accroître l'expérience du lecteur en profondeur. Nathalie Sarraute est, selon l'expression de Jean-Yves Tadier, qui a dirigé l'intégrale de son œuvre dans la Pléiade, Nathalie Sarraute est la musicienne de nos silences. Aujourd'hui, c'est un retour aux sources de cette petite musique que nous vous proposons avec Enfance, publiée en 1983. Un retour que l'auteur entame tardivement à 83 ans et un projet autobiographique que Nathalie Sarraute aborde avec méfiance. Alors, tu vas vraiment faire cela? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas, écrit-elle. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Elle annonce d'emblée la couleur, dès les premiers mots du livre, par un dédoublement de la voix narrative. Elle se parle à elle-même et se contredit dans une sorte de monologue intérieur où la complaisance n'est pas de mise. En coulisses de cette mise en scène du soi, une conscience lucide, capable de stopper les emportements s'ils surviennent, de maîtriser le propos, de rendre justice et de retranscrire avec justesse les petits instants, les sensations fugitives, les silences de son enfance. Enfance, une première vie qui a commencé sous un autre nom, Nathalie Sarraute, née Natalia Tcherniak, et sous un autre ciel, celui d'Ivanovo en Russie. Ballottée entre ses parents, mais aussi entre deux pays, elle raconte dans ses pages l'amour contrarié pour sa mère et sa rencontre avec une langue, le français. La comédienne Irène Jacob a tourné l'an passé avec la pièce « Retour à Reims » de Didier Héribon et vient de publier un premier roman autobiographique « Big Bang » chez Albin Michel sur la perte, les silences, les trous noirs de son père astrophysicien alors qu'elle était enceinte. C'est pourquoi nous avons tout naturellement pensé à elle pour lire, pour vous, un extrait de « Enfance » de Nathalie Sarraute. Tout de suite, Irène Jacob.
Chaque matin, à heure fixe, avant de refermer derrière lui la porte d'entrée, mon père disait à la cantonade « Je suis parti !» Pas « Je pars », mais « Je suis parti !» Comme s'il craignait d'être retenu, comme s'il voulait être déjà loin d'ici, là-bas, dans son autre vie. Et moi, je m'élançais au dehors avec la même impatience.
« Mais tu ne te comparais pas à lui ?»
Je ne me comparais à personne. J'essaie seulement de retrouver à travers ce que je percevais en lui, ce qui se passait en moi quand mon cartable au bout de mon bras, je dévalais l'escalier, courais vers l'école. La vague odeur de désinfectant, les escaliers de ciment, les salles de classe entourant une cour sans arbres, leur haut mur d'un beige souillé, sans aucun autre ornement que le tableau noir au fond de l'estrade et une terne carte des départements, tout cela dégageait quelque chose qui me donnait dès l'entrée le sentiment, le pressentiment d'une vie
plus intense. Plus ne convient pas. Autre serait mieux. Une autre vie. Aucune comparaison entre ma vie restée là-bas, dehors, et cette vie toute neuve. Mais comment, par où la saisir, pour la faire tant soit peu revenir, cette nouvelle vie, ma vraie vie? Fais attention, tu vas te laisser aller à l'emphase. Bon, essayons simplement d'isoler d'abord un de ces instants. En lui seul, permets-moi de le dire, en lui seul tant de plaisir se bouscule. Un peu engoncé dans mon épais tablier noir à longues manches fermées dans le dos, pas commode à boutonner, je me penche sur mon pupitre avec toutes les autres filles de ma classe, à peu près de la même taille et du même âge que moi. Nous écrivons sur une copie où chacune a d'abord inscrit en haut et à gauche son prénom et son nom, en haut et à droite la date, et au milieu le mot « dictée », qu'il a fallu, comme le nom et la date, souligner en faisant habilement glisser sa plume le long d'une règle, sans qu'il y ait de bavure. Le trait doit être parfaitement droit et net. La maîtresse se promène dans les travées entre les pupitres. Sa voix sonne claire. Elle articule chaque mot très distinctement. Parfois même, elle triche un peu en accentuant exprès une liaison pour nous aider, pour nous faire entendre par quelle lettre tel mot se termine. Les mots de la dictée semblent être des mots choisis pour leur beauté, leur pureté parfaite. Chacun se détache avec netteté. Sa forme se dessine comme jamais celle d'aucun mot de mes livres. Et puis, avec aisance, avec une naturelle élégance, il se rattache au mot qui le précède et à celui qui le suit. Il faut faire attention de ne pas les abîmer. Une légère angoisse m'agite tandis que je cherche. Ce mot que j'écris est-il bien identique à celui que j'ai déjà vu, que je connais? Oui, je crois. Mais faut-il le terminer par ENT? Attention, c'est un verbe, souviens-toi de la règle. Est-il certain que ce mot là-bas est son sujet? Regarde bien, ne passe rien. Il n'y a plus en moi rien d'autre que ce qui maintenant se tend, parcourt, hésite, revient, trouve, dégage, inspecte. Oui, c'est lui, c'est bien lui le sujet. Il est au pluriel, un S comme il se doit le termine, et cela m'oblige à mettre à la fin de ce verbe « ENT ». Mon contentement, mon apaisement sont vite suivis d'une nouvelle inquiétude. De nouveau, toutes mes forces se tendent. Quel jeu peut être plus excitant? La maîtresse nous prend nos copies. Elle va les examiner, indiquer les fautes à l'encre rouge dans les marges, puis les compter et mettre une note. Rien ne peut égaler la justesse de ce signe qu'elle va inscrire sous mon nom. Il est la justice même. Il est l'équité. Lui seul fait apparaître cette trace d'approbation sur le visage de la maîtresse quand elle me regarde. Je ne suis rien d'autre que ce que j'ai écrit. Rien que je ne connaisse pas, qu'on projette sur moi, qu'on jette en moi à mon insu comme on le fait constamment là-bas, au dehors, dans mon autre vie. Je suis complètement à l'abri des caprices, des fantaisies, des remuements obscurs, inquiétants, soudain provoqués. Est-ce par moi? Ou est-ce par ce qu'on perçoit derrière moi et que je recouvre? Et aussi, il ne pénètre rien jusqu'ici de cet amour, notre amour, comme maman l'appelle dans ses lettres, qui fait lever en moi quelque chose qui me fait mal, que je devrais malgré la douleur cultiver, entretenir et qu'ignoblement j'essaie d'étouffer. Pas trace ici de tout cela, ici je suis en sécurité. Des lois que tous doivent respecter me protègent. Tout ce qui m'arrive ici ne peut dépendre que de moi. C'est moi qui en suis responsable. Et cette sollicitude, ces soins dont je suis entourée, n'ont pour but que de me permettre de posséder, d'accomplir ce que moi-même je désire, ce qui me fait à moi d'abord un tel plaisir. Mais Nathalie, que t'est-il encore arrivé avec ce verbe apercevoir? Tu lui as de nouveau mis deux P. Oh, comment c'est possible? C'est parce que j'ai de nouveau pensé à apparaître? Écoute, mon petit, tu sais ce que tu dois faire. Tu vas écrire 20 fois « Je n'aperçois qu'un P au verbe apercevoir ». Et j'admire tant d'ingéniosité. C'est pour mon bien, comme tout ce qu'on fait ici, qu'on s'efforce d'introduire dans mon esprit ce qui est exactement à sa mesure, prévu exprès pour lui. Pas tout à fait, pourtant.
Cela paraît souvent difficile à saisir, un peu trop contourné ou trop vaste.
Oui, juste suffisamment pour empêcher mon esprit de se relâcher, de s'amollir, pour l'obliger à s'étirer le plus possible et à faire place à ce qui se présente, à ce qui doit le remplir entièrement. Les nombres de la table de multiplication ou les noms des départements. Et puis ceux des préfectures, et puis encore un effort pour que parviennent à l'occuper, à bien s'y installer les noms des sous-préfectures. Les voici enfin tous là, à leur place. Ils obéissent à mon appel. Il suffit que je prononce le nom d'un département et aussitôt les noms des préfectures et des sous-préfectures, docilement, l'un après l'autre, se présentent. Seule une maîtrise parfaite peut donner un pareil contentement. Même là-bas, dehors, l'école me protège. On passe derrière ma porte sans s'arrêter. On me laisse travailler. Et moi, par contre, je peux entrer dans le cabinet de travail de mon père. Quand revenu à la maison, il se repose dans son fauteuil de cuir vert foncé, les jambes allongées, après les longues journées passées debout devant ses éprouvettes et ses cornues. Mais il dit que pendant qu'il travaille, il ne sent jamais la fatigue. Il pose aussitôt que j'entre les revues de chimie qu'il est en train de parcourir ou son épais journal du soir. Il regarde le cahier que je tiens à la main. C'est dans la classe du certificat d'études que tu lui apportais ces problèmes qui, eux, ne paraissaient vraiment pas faits à la mesure de ton esprit. J'avais beau essayer de me rappeler comment il fallait raisonner, je ne parvenais pas à trouver le nombre de litres d'eau que déversaient des robinets ou bien ces terribles heures d'arrivée des trains qui se croisent. Mon père trouvait ces nombres en un instant par le mystérieux, miraculeux procédé de l'algèbre. Voici quel doit être le résultat, mais toi, il faut que tu l'obtiennes par l'arithmétique. Et ça, moi, on ne me l'apprenait pas. Et nous voici tous deux nous efforçant, mon père assis auprès de moi à son bureau, et moi cherchant à retrouver ce que la maîtresse a expliqué, que j'avais cru retenir et ça s'est échappé. Parfois, avec nos forces rassemblées, nous parvenons à trouver au bout de notre raisonnement le nombre. C'est lui, c'est celui que mon père a obtenu grâce à l'algèbre. La même satisfaction nous emplit, nous détend. Elle affleure sur nos visages quand nous entrons dans la salle à manger, nous mettons à table et sans plus parler de notre problème, prenons avec les autres notre repas. Mais parfois, nous n'avons pas réussi à trouver et après le dîner, nous nous remettons à chercher. Il est arrivé que ton père finisse par te dire qu'il fallait que tu ailles te coucher. Il irait demander de l'aide à tel ou tel ami qui habite tout à côté. Lui, il saura, il est plus fort que moi en cette matière. Mais quelle idée de faire résoudre de tels problèmes par des enfants! Je suis presque ou même complètement endormie quand papa entre. Tu dors? Non, ce n'est rien. Alors, ils ont trouvé? Oui, c'est très simple. Comment n'y avons-nous pas pensé?
Papa s'assoit près de moi sur mon lit et il m'explique. Cela ne me paraît pas si simple. Ça flotte, emmêlé, et tout d'un coup ça se sépare en éléments très nets qui viennent comme de même se mettre en place à leur juste place. Il ne peut y en avoir d'autres. Dans un ordre impeccable, ils se succèdent jusqu'à ce nombre qui les attend, qui est le signe indubitable de leur accomplissement. Je vais l'écrire tout de suite.
Alors vite, dépêche-toi. Il est tard.
Je ne me rappelle plus où ça s'est passé. Dans le brouillard qui le recouvre, je ne perçois que la forme très vague de mon père assis à côté de moi. Il me semble qu'il est tourné de profil. Il ne me regarde pas quand il m'annonce, je ne sais plus en quel terme, que ma mère propose de me reprendre. Au bout d'un an et demi, ou peut-être de 2 ans, il me dit qu'elle y met une condition. Elle ne pourra pas venir elle-même ou me faire chercher. Il faut que ce soit lui qui se charge de m'envoyer chez elle. Et il sait parfaitement que si elle y tient vraiment, elle peut très bien, elle en a les moyens. Et quant à lui, cette fois, il ne lèvera pas un doigt pour l'aider, à moins que ce soit toi qui le demande. Il n'est pas difficile de retrouver ce qui a dû emplir le silence qui a précédé ma réponse. Le choc produit par cette brusque réapparition de ce à quoi j'avais été arrachée, que je m'étais forcée d'écarter, que les lettres venues de là-bas, toujours plus lointaines comme irréelles, avaient aidé à éloigner. Et sous ce brutal rapprochement,
la découverte d'un nouvel éloignement. Et puis ce que mon père fait peser sur moi, cette responsabilité de la décision que moi seule je dois prendre. Et quoi encore de tout aussi vraisemblable? Mais cette reconstitution de ce que j'ai dû éprouver est pareille à une maquette en carton reproduisant en un modèle réduit ce qu'avaient pu être les bâtiments, les maisons, les temples, les rues, les places et les jardins d'une ville engloutie. Pas entièrement. Quelque chose s'élève encore, toujours aussi réel, une masse immense. L'impossibilité de me dégager de ce qui me tient si fort. Je m'y suis encastrée, cela me redresse, me soutient, me durcit. Me fait prendre forme. Cela me donne chaque jour la sensation de grimper jusqu'à un point culminant de moi-même, où l'air est pur, vivifiant. Un sommet d'où, si je parviens à l'atteindre, à m'y maintenir, je verrai s'étendre devant moi le monde entier. Rien ne pourra m'en échapper, il n'y aura rien que je ne parviendrai pas à connaître. Il est curieux que tu aies éprouvé précisément le sentiment que l'enseignement primaire cherchait à donner. J'ai été étonnée en apprenant beaucoup plus tard que c'était là un des buts que cet enseignement voulait atteindre. En tout cas, avec moi, il y a réussi. L'école dominait ton existence. Elle lui donnait un sens, son vrai sens, son importance. Quand tu t'es sentie si malade, tu avais la rougeole, tu as prié le ciel. Oui, c'est comique. Je l'implorais de me laisser vivre jusqu'à ce que je sache tout. Et quelle perte d'équilibre, quel désarroi après, au lycée. Quand tu t'es aperçu que ce monde bien clos, entièrement accessible, s'ouvrait de toutes parts, se défaisait, se perdait. Mais pour en revenir à ma réponse, je ne l'ai pas fait attendre longtemps, le temps d'un léger recul. Ce sera douloureux de trancher moi-même ce lien qui m'attache encore à ma mère. Il n'est plus très bien fixé, mais à certains moments je le sens, il se met à me tirailler. Une douleur pareille à celle, latente, que réveille l'atmosphère ambiante, le froid, l'humidité. Mais les paroles de mon père, si elle y tient vraiment, elle peut très bien, agissent comme un anesthésiant qui m'aide à achever d'arracher sans trop souffrir ce qui s'accroche encore. Voilà, je l'ai fait. C'est ici que je veux rester. Je ne sais pas si mon père m'a serré dans ses bras. Je ne le pense pas. Ça ne m'aurait pas fait sentir davantage la force de ce qui nous unit. Et son soutien total, sans condition. Rien n'est exigé de moi en échange. Aucun mot ne doit aller lui porter ce que je ressens. Et même si je ne sentais pas envers lui ce que les autres appellent l'amour, mais ce qui entre nous ne se nomme pas, cela ne changerait rien. Ma vie lui serait aussi essentielle. Plus peut-être que la sienne, en tout cas autant. Je savais que dans la joie qu'il comprimait en lui, il y avait aussi la certitude que j'avais fait pour moi d'abord le bon choix. Pour lui-même, mais y a-t-il pensé ? Il est clair que ta présence à son foyer ne pourrait que rendre sa vie plus difficile. Il est apparu plus tard qu'avant de prendre la décision de se remarier, il avait demandé à ta mère si elle consentirait à te laisser à lui et qu'elle n'avait même pas daigné répondre. Comment savoir s'il ne s'est pas glissé en lui une amertume? Mais tout ce que j'ai perçu, c'est son air soulagé, détendu, et une complicité joyeuse avec moi que j'entends encore dans sa voix quand il me dit
« Tu sais, il suffit que je ne bouge pas. » Si je ne t'envoie pas moi-même là-bas, il n'y a aucune chance qu'on vienne te reprendre.
C'est la leçon de récitation. Je regarde la main de la maîtresse, son porte-plume qui descend le long de la liste de noms, hésite si elle pouvait aller plus bas jusqu'à la lettre T. Elle y arrive, sa main s'arrête, elle lève la tête, ses yeux me cherchent, elle m'appelle. J'aime sentir cette peur légère, cette excitation. Je sais très bien le texte par cœur. Je ne risque pas de me tromper, d'oublier un seul mot, mais il faut surtout que je parte sur le ton juste. Voilà, c'est parti. Ne pas faire trop monter, trop descendre ma voix, ne pas la forcer, ne pas la faire vibrer, ça me ferait honte. Dans le silence, ma voix résonne, les mots se détachent très nets, exactement comme ils doivent être. Ils me portent. Je me fonds avec eux. Mon sentiment de satisfaction. Aucune actrice n'a pu en éprouver de plus intense. Aucune. Bien qu'il n'y ait pas d'applaudissements.
Mais quels applaudissements, quelles ovations peuvent donner plus de joie que ne m'en donne la certitude d'avoir atteint la perfection? Ce que confirme, comme il se doit, comme il est juste, la maîtresse quand elle prononce ces mots où il n'y a pas de place pour la moindre réserve. C'est très bien. Je te mets 10.
La voix intérieure de Nathalie Sarraute, portée par celle de la comédienne Irène Jacob. Et maintenant, qu'en disent nos professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale? Les trois textes racontent la vie d'enfant de Nathalie Sarraute, à commencer par les apprentissages scolaires et les souvenirs d'école, un passage presque obligé de toute autobiographie. On voit l'attention portée aux détails et au langage. Dès le début de l'extrait, l'auteur réfléchit à une expression apparemment ordinaire. « Je suis parti », disait son père. « Pas « je pars », mais « je suis parti », comme s'il craignait d'être retenu, comme s'il voulait être déjà loin d'ici, là-bas, dans une autre vie. En quelques lignes, il y a déjà tout ce qui fait sa route, les points de suspension qui étirent les silences et la réflexion. L'importance donnée à chaque mot, l'attention portée au pas de côté, au léger décalage qui ouvre sur la vérité d'un sentiment. Ici, le plaisir partagé par le père et la fille de mener une autre vie. On remarque aussi l'état de vigilance constante de l'auteur vis-à-vis de la mémoire et de la manière de la restituer. Sarraute ne veut ni embellir son passé, ni tricher avec ses souvenirs. « Fais attention, tu vas te laisser aller à l'emphase, mais en garde la voix intérieure. Gare à l'auto-célébration, place à la justesse, dire au plus juste et au plus précis ce qui fut. » Sarraute utilise le procédé de l'image pour donner forme à ses souvenirs. Cette reconstitution de ce que j'ai dû éprouver est pareille à une maquette en carton, écrit-elle, reproduisant en un modèle réduit ce qu'avaient pu être les bâtiments, les maisons, les temples, les rues, les places et les jardins d'une ville engloutie. Et la voix intérieure de répliquer « pas entièrement », ce qui permet de relancer le travail de mémoire sans contrarier l'écriture, de la soutenir même alimentée par le doute. Quelque chose s'élève encore, toujours aussi réel, une masse immense. Cet effort de lucidité permet à l'auteur d'éviter le pathos. Dans le deuxième texte, quand sa mère déclare vouloir la récupérer et la ramener en Russie, au bout d'un an et demi ou peut-être de 2 ans avec son père et d'adaptation à la vie parisienne, on imagine l'instabilité affective dans laquelle se trouve l'enfant. Mais l'adulte écrivain n'en rajoute pas, elle reste au plus près des faits, n'ajoute pas de commentaires aux sensations décrites. Elle s'attache aussi à la disposition des souvenirs, comme dans cet extrait. Dans le brouillard qui le recouvre, je ne perçois que la forme très vague de mon père à côté de moi. Il me semble qu'il s'est tourné de profil. C'est dans ces interstices que se jouait l'affection entre le père et la fille. Elle écrit aussi ce que les autres appellent l'amour, mais qui entre nous ne se nomme pas. Et c'est entre les mots que l'essentiel se joue. Bon, essayons seulement d'isoler d'abord un de ces instants. En lui seul, écrit Nathalie Sarraute. Tout son style est là, dans l'instant. Autre exemple de tropisme mis en avant par les professeurs de l'éducation nationale pour vous aider à saisir la démarche si particulière de l'auteur, à condition que ce soit toi qui le décide. Ce choix laissé par le père à l'enfant, sur ses épaules repose soudain une responsabilité considérable, des mots qui engagent toute une vie. « Voilà, je l'ai fait, c'est ici que je veux rester », répond l'enfant Sarraute. Pour la petite fille, l'école est un lieu où elle se sent bien, en sécurité. Il y a le plaisir de la réussite scolaire, vous l'avez entendu dans la lecture d'Irène Jacob, la satisfaction de la bonne note, le « je te mets 10 » de la maîtresse qui vient terminer l'extrait. Mais pas seulement. Même là-bas, dehors, l'école me protège, écrit Nathalie Sarraute. On passe derrière ma porte sans s'arrêter, on me laisse travailler. Dans cet espace scolaire, l'enfant a le sentiment d'avoir la maîtrise de sa vie, contrairement à la cellule familiale où l'espace est plus chaotique du fait de la séparation de ses parents. En écrivant ses souvenirs, elle n'est d'ailleurs pas dupe de l'illusion enfantine qu'il y avait à croire qu'elle pourrait vivre jusqu'à ce qu'elle sache tout. Pas dupe non plus des limites de l'institution. Son double la met une fois encore en garde. Il est curieux que tu aies éprouvé précisément le sentiment que l'enseignement primaire cherchait à donner. Et quelle perte d'équilibre, quel désarroi, après, au lycée, quand tu t'es aperçu que ce monde bien clos, entièrement accessible, s'ouvrait de toutes parts, se défaisait, se perdait. Après l'illusion de totalisation et la sécurité d'un monde fermé, elle éprouve le vertige de la complexité. Progresser dans le savoir, c'est découvrir qu'on ne peut pas tout connaître. Pour Nathalie Sarraud, si l'école est un refuge, elle est en même temps un défi, où elle va devoir recommencer à apprendre à écrire. N'est-ce pas d'ailleurs le propre du travail d'écrivain ? Apprendre et réapprendre à écrire. Passer d'une langue confuse, incertaine, à la maîtrise de la langue et à la précision des mots. L'auteur joue de cette ambiguïté dans ce passage, notamment sur le bonheur de la dictée. Écoutez. Les mots de la dictée semblent être des mots choisis pour leur beauté, leur pureté parfaite. Chacun se dessine avec netteté, sa forme se dessine comme jamais celle d'aucun mot de mes livres. De mes livres ? Qui parle ici ? L'enfant comparant les mots écrits de la dictée et ceux des livres qu'elle lisait alors ? Ou l'écrivain qui doit se débrouiller tout seul ? Quand il écrit, plus personne ne lui dicte ce qu'il faut extraire d'un instant, retenir de la vie. Pour conclure, cet extrait d'enfance résume bien l'esthétique de Nathalie Sarraud et son refus des conventions. Comme il fait miroir à la naissance d'une vocation, pour un oui ou pour un non. Et maintenant, tous à vos livres. Enfance de Nathalie Sarraud est à lire en intégralité. À période spéciale, émission spéciale, à l'heure de la grande table, écoutez, révisez, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Anne Simzac, à Patrick Laudet qui a supervisé cette programmation et à Olivier Barbaran, inspecteur général, qui a travaillé sur l'analyse du jour. Lecture coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Aude-Picon avec Bastien Varigo à la technique. Mise en onde, Midia Portis-Guérin. Merci à Laura Dutèche-Pérez qui nourrit le site d'informations précieuses. Sur franceculture.fr, vous pouvez aussi réécouter et vous abonner au podcast de cette émission. Passez un très bel après-midi sur France Culture. Je vous retrouve demain à midi. Et d'ici là, à propos de lecture, lecture à propos, un nouveau rendez-vous de la chaîne avec André Dussolier. C'est ce soir de 19h à 20h. Le grand comédien lira pour vous Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline.